Une chose est nécessaire. Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Aussi louable que puisse être le service chrétien, il est plus important d'être tout entier à écouter les paroles de Jésus et apprendre sa volonté que d'être zélé dans les œuvres du royaume de Dieu, mais distrait par ses exigences. Voilà, en essence, ce que le Seigneur Jésus affirme en Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Lisons ce passage. « Et il arriva, comme il s'en allait, qu'il entra dans une bourgade, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur nommée Marie, qui, se tenant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Mais Marthe était distraite par divers soins. Et étant venue à Jésus, elle dit, « Seigneur, ne te soucies-tu point que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc qu'elle m'aide de son côté. » Et Jésus répondant lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui soit point ôtée. » Il s'agit de la même Marie et de la même Marthe qui sont mentionnées en Jean chapitre 11 et 12. Elles sont les sœurs de Lazare, celui-là même que Jésus a ramené à la vie. Jésus dit à Marthe ces mots intrigants. « Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une chose est nécessaire. Marie a cette bonne chose. Elle a choisi la bonne portion, et personne ne la lui enlèvera. » Ces phrases contiennent visiblement une vérité de grande importance, et tout semble graviter autour de cette chose nécessaire. « Une seule chose est nécessaire », déclare Jésus au verset 42. Quelle est donc cette chose qui est si nécessaire? Nous avons ici un récit où Marthe reçoit Jésus dans sa maison. Le Seigneur n'était probablement pas seul. Selon toute vraisemblance, ses disciples l'accompagnaient et la venue de ces hommes a vite fait de tenir Marthe occupée. Celle-ci déploya une grande énergie dans la préparation du repas. Mais il y avait quelque chose de blâmable, semble-t-il, dans son hospitalité. Nous le constatons par l'utilisation de plusieurs termes négatifs à son égard. Marthe était distraite. Elle s'inquiétait et s'agitait. Elle vivait de toute évidence un moment de grande tension où son attention était divisée entre les multiples tâches domestiques à accomplir. Marie, de son côté, se tenait assise près de Jésus, n'accomplissant rien du tout, du moins selon le point de vue de Marthe. Choquée par l'oisiveté de sa sœur, Marthe se tourne vers Jésus et lui demande d'intervenir. « Ma sœur ne fait pas sa part du travail. Elle est assise là, à terre, pendant que je cours comme une folle. Tu devrais lui demander de se lever et de me donner un coup de pouce. » En toute honnêteté, je crois que l'attitude de Marthe attire plus notre sympathie que celle de Marie. Marthe ne faisait que répondre aux besoins du moment. Il fallait bien que quelqu'un prépare le repas, et c'est ce que Marthe était en train de faire. Elle avait raison de se plaindre, n'est-ce pas? À notre surprise, Jésus affirme que c'est plutôt Marie qui a montré la meilleure attitude. Elle a choisi la seule chose qui compte vraiment. L'histoire de l'interprétation de ce passage nous montre qu'on a souvent vu dans ces deux sœurs les types de deux entités divergentes. Dépendant du point de vue considéré, le contraste pouvait opposer la vie active et la vie contemplative, le monde à venir et le monde présent, le judaïsme et le christianisme, ou encore la justification par les œuvres est celle qui s'obtient par la foi. Nous tenterons également d'interpréter ce passage sur la base d'un contraste. Celui qui montre d'une part Marthe se tourmentant de beaucoup de choses, et d'autre part Marie qui ne se souciait que d'une seule chose. On peut dire que le premier personnage manque de concentration, alors que l'autre est absorbé par une seule activité. L'esprit de l'un est divisé, celui de l'autre est unifié. Cette notion d'être unifié ou d'être un apparaît sous plusieurs formes dans les Écritures. Elle décrit généralement l'individu dont l'attention est absorbée par un seul objet. On note chez lui une unité d'intention, c'est-à-dire qu'il consacre son énergie à une seule chose seulement. À l'opposé, il existe des gens qui se consacrent à plusieurs choses à la fois. La Bible parle alors d'hommes à l'âme partagée. Nous allons considérer la question d'avoir la chose nécessaire en nous tournant vers une autre partie de l'enseignement du Christ. Quelques chapitres plus loin en Luc, Luc chapitre 18, verset 22, nous trouvons un individu à qui il manquait aussi une chose essentielle. Il s'agit du jeune homme riche. Celui-ci accourut vers Jésus pour lui poser une importante question au verset 18. « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui rappela alors quelques-uns des 10 commandements. « Je les connais, » répondit le jeune homme, « et à ma connaissance, je les ai tous observés depuis ma jeunesse. » Remarquez maintenant la réponse de Jésus au verset 22. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Il te manque encore une chose. Pourtant, cet homme semblait avoir tout dans la vie. Il avait de l'argent, il était pieux, il a su observer tous les commandements. Il avait tout, sauf la chose la plus importante. Bien malheureux est celui qui a toutes sortes de choses, mais qui ne possède pas celle qui compte le plus. L'homme qui a la seule chose nécessaire est vraiment riche, spirituellement riche, même s'il n'a que cette chose et rien d'autre. Il te manque encore une chose, la seule qui soit vraiment nécessaire. Quelle est cette chose? Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » La chose qui te manque, c'est de me suivre en renonçant à tout ce que tu possèdes. Ce jeune homme riche prétendit avec une certaine assurance avoir observé tous les commandements. Cela amena le Seigneur à diriger la conversation sur la relation qu'entretient cet homme avec les biens matériels et avec le Dieu qu'il dit obéir depuis sa jeunesse. Jésus perçut une grande faille spirituelle dans son attachement pour ses possessions. Il adorait plus sa propre fortune que Dieu. Jésus le lui signala en montrant que son argent l'empêchait d'entrer en possession de la vie éternelle. Tant que sa richesse s'interposera entre lui et le salut de son âme, il ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. Jésus lui proposa alors de se départir de ses biens, de donner son argent aux pauvres, et ensuite qu'il devienne un disciple. Évidemment, la vie éternelle ne s'obtient pas par la simple liquidation de ses biens terrestres. Dans ce cas particulier, elle a été demandée car Jésus savait que l'attachement de ce jeune homme à ses avoirs l'empêchait de confier sa vie à Dieu. Il avait fait de ses richesses son Dieu. Jésus l'a alors placé devant un choix. Il ne pouvait pas avoir la vie éternelle tout en conservant ses trésors matériels. Ceux-ci ont des objectifs opposés face auxquels un choix s'impose. Chaque fois que nous aimons quelque chose plus que Dieu, nous montrons que nous n'avons pas la chose qui soit vraiment nécessaire, c'est-à-dire un cœur tout entier pour Dieu, un cœur disposé à renoncer à tout pour Dieu. Avoir de l'argent n'est pas une mauvaise chose en soi. Jésus ne commande pas à tout le monde de se débarrasser de leurs biens. L'ordre de vendre, pour le disciple, doit être pris dans le sens de se séparer de tout ce qui devient ou qui risque de devenir plus important que Dieu. Rien ne doit le distraire de sa relation avec Dieu. Donc, dans ce passage, le concept de la chose nécessaire qui faisait défaut au jeune homme riche concerne une attitude qui accepte de renoncer à tout pour ne suivre qu'un seul objectif, suivre Jésus et obéir à sa parole. La même idée avait déjà été exprimée par Jésus quelques versets plus tôt. En Luc chapitre 9, verset 62, le Seigneur dit à un aspirant disciple, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » L'expression « être bon pour le royaume » correspond justement à avoir la chose qui est nécessaire. À quel type de personne Jésus fait-il allusion quand il parle d'être bon pour le royaume? On dit d'un individu qu'il est bon à quelque chose lorsque celui-ci possède les qualités désirées ou recherchées dans un contexte particulier. Par exemple, on peut dire que vous êtes en bonne forme physique parce que vous possédez la qualité d'être en santé et qui vous permet de faire une activité physique quelconque. Si vous n'êtes pas en bonne forme, cela signifie que votre santé n'est pas aussi bonne qu'elle devrait être. Ou encore, on peut dire que vous êtes bon pour un travail particulier si vous possédez les habiletés ou les compétences pour l'accomplir. Vous ne l'êtes pas si vous n'avez pas les qualités requises. Jésus utilise le terme « bon » dans sa comparaison du chrétien au sel. Celui-ci est au monde, ce que le sel est à la vie quotidienne. Or, si le sel devient fade, il n'est plus bon à rien, sauf à être jeté aux ordures. Matthieu chapitre 5, verset 13. Du sel sans saveur ne sert à rien. Il ne mérite pas qu'on le garde. Le verset en Luc chapitre 9, verset 62, est une métaphore qui se réfère au fait qu'un laboureur doit avoir les yeux fixés sur son champ, devant lui, s'il veut tracer des sillons rectilignes. Elle souligne l'importance d'être concentré sur la tâche à accomplir. Celui qui essaie de suivre Jésus tout en portant ses regards, ses désirs, vers l'arrière, vers le monde, n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Il n'a pas ce qu'il faut pour travailler dans le règne de Dieu. Le disciple doit s'élancer en avant à la suite de Jésus et le suivre résolument. Il doit se consacrer tout entier à l'accomplissement de son devoir envers Dieu. Dans ce contexte, être bon pour le royaume signifie être totalement engagé. Il s'agit d'une expression comparable à la chose nécessaire que Marie a choisie. Ainsi, avoir la chose nécessaire consiste à concentrer toute son attention sur le royaume de Dieu, à servir le Seigneur sans le quitter des yeux. Le disciple de Christ n'est pas un individu au cœur partagé ou un sentimental rêveur. Sa consécration à Christ est définitive et complète. Aucune considération, aussi légitime soit-elle, aucun obstacle, aussi difficile soit-il, ne peut le détourner de son dessein. Vous pouvez lui cracher au visage. Vous pouvez lui asséner un coup de poing. Il ne se laissera pas distraire et continuera sa marche avec Dieu, soutenu par sa grâce. Cette notion d'un engagement total se retrouve chez l'homme dont le cœur est simple, par opposition à celui dont le cœur est double. En Matthieu chapitre 6, verset 22, Jésus l'applique à l'œil du cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est simple, ton corps tout entier sera plein de lumière. Le mot « simple » ici se rapporte à la qualité d'être entier, résolu, dévoué à un seul objet, à la seule chose qui soit nécessaire. Jésus se sert d'une analogie avec l'œil pour enseigner la nécessité de s'attacher fermement à Dieu, autant dans la prospérité que dans les circonstances défavorables. Si l'œil est simple, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas des deux côtés à la fois, alors toute la vie de cet homme est inondée de la lumière divine. Rappelons que ces paroles ont été dites dans le contexte d'une mise en garde contre l'amas de richesses terrestres. Si le cœur d'un homme est simple dans son amour pour Dieu, s'il n'a en vue que les intérêts de Dieu, alors il pourra voir les richesses dans leur juste perspective. À l'opposé, en désirant avoir part autant aux biens terrestres qu'aux trésors célestes, il vivra comme s'il avait une personnalité divisée, oscillant continuellement entre deux dispositions contraires. Or Dieu ne peut pas être honoré par un homme qui donne son cœur pour deux mondes à la fois. Les multiples soucis de la vie, ou encore les nombreuses activités associées au ministère chrétien, peuvent éloigner notre attention des vérités principales du christianisme. L'amour, la miséricorde, la justice, la fidélité. La rencontre du Seigneur avec Marthe et Marie nous donne une leçon cruciale sur l'importance de porter un regard simple sur Jésus et de veiller à rester en communion avec lui. Sommes-nous trop occupés à faire des choses pour lui que nous avons négligé d'être avec lui? Il y a une distinction à faire entre le service pour Jésus et une relation avec Jésus. L'un n'implique pas automatiquement l'autre. Bien sûr, il veut que nous nous mettions au service du royaume des cieux. Mais plus important encore, il désire notre attention. Il désire que nous restions en contact avec lui malgré toutes les distractions de la vie quotidienne. Veillons à rester près de lui afin qu'il puisse nous toucher par sa parole. C'est ce qui nous permettra de continuer avec une ferveur soutenue dans notre dévotion. L'apôtre Paul en est un qui ne se laisse pas détourner de son chemin lorsqu'il a un but dans la tête. Il exprime de belle façon en Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14, où il discute de la seule chose qui compte pour lui. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul décrit sa vie spirituelle sur deux plans. Oublier les choses qui sont en arrière de lui et s'avancer vers ce qui est en avant. Notez la grande concentration de cet homme. Une seule chose m'intéresse. Toute son énergie convergeait vers un point unique, c'est-à-dire l'accomplissement de la seule chose importante pour lui. J'ai cumulé beaucoup de choses. Je suis un Hébreu, descendant d'Hébreu. J'ai reçu une formidable éducation. J'ai été instruit au pied de Gamaliel, le plus grand enseignant de son temps. J'ai toujours été plein de zèle pour Dieu. Depuis mon enfance, j'ai suivi scrupuleusement la loi. Mais contrairement au jeune homme riche, il oublia toutes ces choses. Il oublia les choses qu'il considérait comme étant un gain, mais aussi ses manquements et ses souffrances. Et maintenant, à la manière d'un coureur qui se précipite sur la ligne d'arrivée, il tend de tout son être vers le but. Paul nous révèle qu'il a fait de ce but sa seule pensée, son unique affaire. En quoi consistait ce but? Il voulait obtenir, au terme de sa course, une communion parfaite avec Christ. C'est à cela qu'il a consacré sa vie entière. À ce titre, il est un exemple de celui qui possède la chose nécessaire. Apprenons à faire comme Paul. Apprenons à fixer imperturbablement notre regard sur le but à atteindre, le but étant de connaître intimement Christ, dans la joie comme dans la souffrance. Il y a dans l'Ancien Testament un verset qui affirme le caractère unique de Dieu et qui mérite d'être souligné dans le cadre de notre leçon. Ce verset est le début du célèbre schéma que les Israélites pieux récitent deux fois par jour. Lisons Deutéronome, chapitre 6, verset 4. « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. » Le Seigneur est un. Dieu est un. Il n'est pas deux. Il n'est pas cinq. Il est un. Cette insistance sur l'unicité de Dieu peut paraître surprenante. En effet, les Israélites pouvaient-ils avoir une conception autre que celle d'un Dieu unique? Non. Voyez-vous, l'idée de la Trinité n'est pas expressément enseignée dans l'Ancien Testament. Il n'est jamais question d'une confession de Dieu comme un en trois dans la liturgie juive. Que signifie alors cette déclaration selon laquelle le Seigneur est un? Cette proclamation d'un Dieu qui est un porte sur le caractère unique de la personne divine. Lui seul est Dieu. Il est unique. Écoutez, peuple d'Israël, rappelez-vous de ceci. L'Éternel, notre Dieu, est le seul et véritable Dieu vivant. Il faut mentionner que ce point essentiel du credo juif venait en opposition à l'idée régnante que chaque peuple avait son ou ses dieux particuliers capables de le protéger et de le soutenir. Le Seigneur étant un, il ne peut être question pour Israël d'adorer toute autre divinité. Soulignons par ailleurs que le mot « Dieu » dans ce verset est écrit au pluriel, « Elohim » au lieu de « Eloah ». Certains y ont vu une allusion à la Trinité, ou à tout le moins à la notion d'un Dieu pluriel dont on proclame l'unicité. Sans nécessairement parler de la Trinité, on ne peut nier le fait que ce verset fait pressentir une pluralité au sein de la divinité. En disant que Dieu est à la fois pluriel et singulier, on affirme que les diverses entités divines sont unies de telle manière qu'elles se manifestent comme une unité totale. Il est aussi important de noter que le mot « un » et le verbe « unir » ont la même racine en hébreu. À cet égard, on peut dire que être un et unir ont le même sens. Le Seigneur notre Dieu est un. Le Seigneur notre Dieu est uni. Approfondissons cette observation sous l'angle d'un autre verset de l'Ancien Testament. Lisons le psaume 86, versets 11 et 12. Éternel, enseigne-moi ton chemin. Je marcherai dans ta vérité. Unis mon corps, mon cœur, la crainte de ton nom. Je te célébrerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à toujours. Nous avons ici le verbe unir. Unis mon cœur pour que je craigne ton nom. L'action d'unir consiste à rassembler plusieurs éléments pour former une seule entité. En ce sens, le cœur doit devenir un. Unifie mon cœur afin que je te révère sans partage. Mets en moi cette seule préoccupation, te louer de tout mon cœur. Accorde-moi un cœur qui ne cherche qu'à respecter ton nom. Cette requête nous laisse sous-entendre la possibilité que le cœur puisse être désuni ou distrait. On peut penser à Marthe, par exemple, au point de perdre de vue des vraies priorités. Et conscient de cette réalité, le psalmiste prie Dieu de lui accorder une unité d'existence afin qu'il sache marcher constamment dans la vérité et qu'il puisse le glorifier perpétuellement. Concentre et réunis toutes mes pensées et toutes mes aspirations en une seule, soit de rendre gloire à ton nom. C'est ce que le psalmiste demandait à Dieu. Nous avons lu précédemment Deutéronome chapitre 6, verset 4. Regardez le verset suivant. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il était question d'un Dieu unique. La notion d'unicité s'applique maintenant à l'homme. Les diverses composantes de l'être humain sont unies pour aimer Dieu dans toute la plénitude de la personne. Celui qui obéit à ce commandement de cette manière a la chose nécessaire. On peut dire de lui que son œil est simple, puisqu'il fait de Dieu le seul objet de sa dévotion. La visite que fait Jésus chez Marthe et Marie, lui donnant l'occasion d'enseigner l'importance de maintenir une communication ou une communion spirituelle de tous les instants avec Christ. Marthe avait du souci pour beaucoup de choses, alors que Marie n'en avait que pour un seul. Même si leurs soucis étaient tout à fait nobles, les deux sœurs ne sont pas présentées sur un pied d'égalité. Le souci de Marie était de loin le plus profitable. Ainsi, Jésus n'adresse pas d'éloge à Marthe, mais il déclare sans restriction que Marie avait choisi la bonne part. Quelle est cette chose nécessaire, cette bonne part que Marie a choisie? Marie a choisi de rester avec Jésus et de se concentrer sur lui en écoutant les paroles de la vie éternelle. Elle reçut ainsi les bienfaits de cette communion. Marthe, à cause de son agitation, pourtant toute humaine, n'a pas su jouir de la présence de Jésus au milieu de ses tâches. Les situations de la vie en général, de même que les multiples activités du service chrétien, sollicitent notre attention et tendent à la fragmenter. Jésus le sait et nous demande de ne pas nous laisser distraire. Quoi que nous fassions, où que nous nous trouvions, souvenons-nous qu'il n'y a qu'une seule chose qui soit vraiment nécessaire, notre communion avec Christ. C'est à cela que je consacre toute mon énergie, nous dit Paul. J'oublie le passé et je me porte vers Jésus avec toute l'ardeur possible. Nos activités peuvent être interrompues. Notre communion avec le Seigneur ne pourra jamais nous être enlevée.